Aligre FM 93.1.
Voilà, nous allons maintenant aborder notre rubrique cinéma complètement. Cinéma et design et photographie. Voilà, donc on va commencer cette première partie par rappeler que nous avons reçu la semaine dernière Christian Rorato pour son film Les Oubliés du Transsibérien, sur ces Italiens, ces Frioulans qui ont construit une partie du Transsibérien. Il y a eu une projection vendredi à Nanterre. On a pu revoir ce film sur grand écran. C'était vraiment un film formidable avec un petit débat. On a pu rencontrer certains de nos auditeurs et auditrices. Et ce film sera représenté prochainement en mars. On vous préviendra au cinéma Luminor à Paris. Et puis un DVD sera édité également. Christian Rorato viendra nous en parler quand le DVD sera disponible et nos auditeurs qui ont apprécié le film et la présentation pourront le présenter. On va continuer avec une interview de Ferdinando Ficentini Orniani que nous avons rencontré avec Fabrice Mazera à propos de son film Vino d'Intro qui s'appelle en français Le crime du sommelier. C'est une histoire en effet de sommelier. Ce film donc est avec Vincenzo Amato, Giovanna Mezzogiorno, Lambert Wilson, qu'on revoit également en ce moment dans Les Confessions, Pietro Sarmenti et Daniela Virgilio. Cette interview est en italien parce que Ferdinando ne maîtrise pas complètement le français, donc on l'a faite en italien et je vais vous faire ici un petit résumé de ce qui a été dit. Donc le film est composé, c'est une libre adaptation d'un roman de Fabio Marcotto, mais auquel il a mêlé le mythe de Faust et même le mythe de Maître et Marguerite. Donc on mélange le vin du monde et de la culture. Et Ferdinando nous a confirmé qu'il est né dans le monde du vin. On se trouve dans le nord de l'Italie, dans le Friuli, avant d'aller retrouver notre invité qui, lui, vient de Naples. On va voyager du nord au sud. Et donc, le film est tourné à Valeriano, près de San Daniele. Et Ferdinando est né là. Et après le tremblement de terre de 76, il est parti à Rome, puis aux États-Unis. Il a notamment produit les films de Sabina Guzzanti, qui sont Dracula notamment, des films donc sur Berlusconi. Et ce film donc est un film hybride de plusieurs genres, ce qui fait qu'en Italie n'a pas eu un accueil très favorable. C'est à la fois une comédie noire, mais également métaphysique. Il mêle les genres. On y rencontre un professeur qui est joué par Lambert Wilson et qui est devenu un ami de Ferdinando parce qu'il parle très bien italien, et ce protagoniste se retrouve déplacé dans l'espace comme cela est arrivé, paraît-il, vraiment à Ferdinando à Rome, qui un jour sortant d'une librairie s'est retrouvé dans un autre quartier de la ville sans savoir comment. On retrouve des personnages bibliques aussi, puisque les trois assistants du professeur sont Luca, Marco et Matteo, donc ce sont les évangélistes, qui avec Giovanni, le sommelier, forment les quatre évangélistes. Maintenant, à la fin de l'interview, Ferdinando nous parle de ses projets. Il vit depuis plusieurs années également aux États-Unis et il a fait dernièrement un film sur la Bolivie. Ce film sur la Bolivie, c'est un film politique cette fois-ci, qui nous montre comment 3 tonnes par jour de cocaïne passent de la Bolivie vers le Brésil et ensuite du Brésil vers l'Europe et la France. Donc c'est un problème grave et ce film sortira en mai en France. Donc on écoute cette interview de Ferdinando Vincentini Orniani à propos du film Vino d'Intro.
Nous sommes avec Alain Amengual au café Le Pépé, qui est donc en face à la rue de Montreuil, en face Radio Aligre, pour une rencontre avec le réalisateur italien Ferdinando Vicentini Orniani, qui a donc réalisé le film Vino Dentro, le crime du sommelier, qui est l'histoire d'un expert en vin, Giovanni, qui va trouver, qui était un ancien banquier, qui s'est reconverti dans le vin parce qu'il est sa passion, et qui va se trouver arrêté par la police pour le meurtre de sa femme dont il était pourtant séparé depuis quelque temps. Donc voilà la trame de départ. On accueille Ferdinando qui est à Paris de passage pour aller à Reims pour le festival qui a lieu le week-end du 4 février. Et donc j'avais une première question pour Ferdinando. On va faire ça en italien, plus à l'aise en italien. Vino Dentro è un film che illumina un thriller attraverso il prisma dell'enologia. Come è arrivata per andare per rendere l'atmosfera del libro di Fabio Marcotto?
Dunque il film è una contaminazione tra il libro di Fabio Marcotto e il mito di Faust. È chiaramente una storia faustiana che coniuga il mondo del vino con un mito e con un archetipo della nostra immaginazione e cultura. Io sono cresciuto nel mondo del vino, la mia famiglia ha una piccola azienda in Friuli, in un paese che si chiama Valeriano, nel nord-est dell'Italia, vicino a San Daniele, che forse è più famoso per il Via del Prosciutto, e sono cresciuto lì fino ai 12 anni. Poi c'è stato un terremoto molto serio, ci sono stati più di 1000 morti e sono andato a vivere altrove, poi ho cominciato i miei viaggi, Roma, poi sono stato negli Stati Uniti, però il Friuli rimane, e questa terra in particolare e il vino e quello che rappresenta rimane un punto di riferimento nella mia vita, tant'è che io sono ancora residente lì, non ho mai preso la residenza a Roma e dopo 30 anni, quindi prima o poi forse ci tornerò a vivere. E il film è uno strano ibrido di generi, e poi io vengo da un cinema politico, di impegno sociale, molto drammatico, quindi questo film ha una vena anche ironica, è una sorta di black comedy metafisica. È stato definito così da qualcuno, mi è piaciuta molto perché è vero, perché gioca in modo leggero con i massimi sistemi in qualche modo, quindi tra l'altro domani ci sarà questa proiezione a Reims e la prossima settimana a Bastia in Corsica, quindi è infatti il film, che in Italia è stato abbastanza ignorato forse anche proprio per questa a parte problemi di distribuzione, ma forse per questa stranezza del film, perché non c'è in Italia una tradizione di mescolanza di generi. Invece per esempio è andato molto bene in Brasile e vedo che piace molto in Francia, mi chiamano continuamente, sono andato in tante occasioni.
Sì, è una bella scoperta quel film, che era abbastanza discreto, ma quando si vede la gente è contenta.
Sì, sì, infatti io vengo molto volentieri, cerco sempre di venire in Francia, purtroppo il mio francese non è abbastanza decente da poter fare un discorso, per cui mi sento molto in colpa.
Sì, è un film metafisico, è vero, ma anche di fantascienza, mi pare un po', no? Cioè il tempo, fai nel tempo.
Sì, in realtà c'è un momento del film in cui il protagonista racconta a questo strano personaggio che lui incontra, che si chiama che chiamano il professore, però che è interpretato appunto da Lambert Wilson, che è stata una grande scoperta per me, è diventato un amico, una persona straordinaria, oltre al fatto che parla benissimo l'italiano, per cui è stato facile per lui entrare in questo progetto, appassionato di vini anche lui. E c'è un momento in cui il protagonista racconta che di essere uscito dal suo ufficio nel giorno in cui viene licenziato dalla banca e di essersi poi ritrovato improvvisamente a 30 km di distanza in una giornata di pioggia e in un momento di sole. E quindi non si spiega questa cosa. E Lambert Wilson gli dice: ma è una. Può succedere, sono delle spaccature nella realtà spazio-temporale. È successo anche a me, dice, più di una volta. Sì. No? E questa in realtà è una cosa che è successa a me una volta a Roma, dove io sono uscito da una libreria e mi sono ritrovato dall'altra parte della città. Non so come, cioè, o non ho spiegazioni. E da lì, questo è anche un altro elemento della storia che ho infilato, ci sono molte cose della mia vita, dell'attenzione rispetto al vino. C'è moltissima arte contemporanea, abbiamo girato dentro un grande museo a Rovereto, il Mar di Rovereto, nella mostra di Fausto Melotti, che è uno dei grandissimi artisti italiani del secolo scorso, e quindi insomma il film racconta me, racconta il romanzo di Fabio Marcotto, il Maestro e Margherita forse più che Faust, sì. E ci sono infatti questi personaggi strani che accompagnano il professore, che sono come dei diavoletti, degli assistenti.
E sono anche gli evangelisti, con Giovanni sono i quattro.
Certo, questa è stata un'idea che ci è venuta scrivendo la sceneggiatura, e appunto che fossero, perché il film è stato girato in Trentino e il vino intorno al quale gravita la storia è il Marzemino, che è un vino famoso forse solamente perché è stato citato nel Don Giovanni di Mozart. È un vino che difficilmente può invecchiare, che va consumato molto rapidamente, anche interessante, però molto chiuso in quella zona del nord-est dell'Italia. E il Marzemino appunto è un vino molto presente nel film.
Allora, lei era anche produttore di due documentari di Sabina Guzzanti, Viva Zapatero e Draquilla, che hanno fatto rumore anche in Francia, sull'anomalia berlusconiana, come la chiamano alcuni storici italo-francesi. Quindi come vede la futura presidenza di un politico di profilo simile, Donald Trump?
Ma io tra l'altro sono stato adesso, io vivo parte dell'anno negli Stati Uniti, quindi sono molti anni, ho studiato all'università, ho studiato musica quando ero giovane, chitarra classica, suono. Ah. E quindi gli Stati Uniti ho una grande dimestichezza e avevo dato $300 a Obama. Per la prima volta e unica nella mia vita ho dato, e sono rimasto abbastanza deluso, perché la politica estera dell'amministrazione Obama, in particolare Hillary Clinton, è stata forse la peggiore dalla guerra in Vietnam. È stata una grande delusione, infatti si vedono le conseguenze nella nostra Europa. Ma certo, questo è molto molto preoccupante quello che sta succedendo, e infatti proprio stavo al telefono poco fa con un'amica che vive a Miami e mi diceva appunto che si dicevamo prima delle elezioni, ma poi se dovesse essere eletto non farà le cose che ha detto di fare, lo fa per la campagna elettorale, e invece sta facendo, e anche con una rapidità. Sì, c'è poco da ridere, ecco, Berlusconi era, anche lui ne ha fatte, insomma, però era un personaggio che aveva un lato comico, ecco, questo è un po' inquietante più che comico, perché anche maneggia un paese enorme e potentissimo, con la possibilità di influenzare la vita di miliardi di persone, non di milioni.
Allora, adesso dopo quei festival lì in Francia, quali sono i suoi progetti? Documentari, film?
Ho fatto un documentario che è uscito da poco negli Stati Uniti sulla Bolivia. Sono andato per 5 anni avanti e indietro dalla Bolivia. Ho fatto un documentario che racconta la trasformazione della politica in Bolivia. Avevo iniziato sull'onda di entusiasmo di una rivoluzione socialista, quella che sembrava essere una rivoluzione socialista di questo presidente indigeno, Evo Morales. Poi purtroppo sono andato in Bolivia e ho scoperto che primo non è un presidente indigeno ma solo un'immagine e ha costruito una propaganda legando questa idea dell'indigenismo a qualche cosa che non lo è, ma è legato invece ai cocalero, ai coltivatori di coca. E diciamo che, per essere molto sintetici, che in Bolivia è successo quello che Pablo Escobar sognava di fare in Colombia. E questo documentario, che è stato bandito in varie occasioni, ho avuto diversi problemi personali, anche minacce, uscirà adesso prima in Brasile, il 30 di marzo. Infatti i distributori brasiliani gli hanno cambiato il titolo con Chi ha paura di Evo Morales, da Un minuto del silenzio, che era il titolo originale. E in Brasile il traffico di cocaina dalla Bolivia sta diventando un problema molto serio. Ci sono 3 tonnellate al giorno di cocaina boliviana che arrivano e vengono consumati in Brasile, oltre a centinaia di tonnellate che invece passano attraverso il Brasile e arrivano in Europa. Quindi c'è un governo apparentemente democratico, di cui anche purtroppo la sinistra radical chic europea pensa delle cose assolutamente non vere, e invece insomma purtroppo la situazione è veramente grave, per cui insomma sono contento che esca in Brasile e poi uscirà a maggio anche in Francia. Non sappiamo ancora con quale titolo, perché come sapete i distributori cambiano anche il vino dentro. In Francia appunto è stato chiamato Le Crime du Sommelier, in Brasile Ovigno Perfeito, il vino perfetto.
Ok, allora aspettiamo a maggio per vedere un po' il seguito di questa storia. La ringraziamo molto e la diciamo alla prossima.
Grazie a voi.
Vous pourrez commander le DVD dans toutes les bonnes boutiques qui vendent des DVD, la Fnac et autres, donc de ce film Vino d'intro de Ferdinando Vicentini Orniani. Nous allons maintenant recevoir notre invitée, qui est Madame Dominique Rizzo. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Donc Dominique Rizzo, vous êtes l'épouse de Willy Rizzo. Et on vous reçoit à l'occasion d'une exposition qui dure jusqu'au 1er avril, donc il y a encore tout le mois de mars pour la voir, pour nos auditeurs qui n'ont pas encore visité. C'est 12 rue de Verneuil, c'est près de Saint-Germain. Un repère facile, c'est presque en face aussi de la maison de Serge Gainsbourg. Et cette exposition dans l'ancien atelier de Willy Rizzo présente à la fois ses photos et
son design.
Et son design, car c'est un photographe et designer. On verra pourquoi, comment il est devenu designer au cours de sa biographie. Willy Rizzo, malheureusement, est décédé. D'ailleurs, c'était hier un anniversaire un peu triste.
4 ans.
Et il était né en 28 à Naples. Et il est né d'une histoire un petit peu d'amour, une passion. Puisque son père, qui était de famille napolitaine mais émigré aux États-Unis, son père revient donc en 28 ou 27 à Naples en vacances, et là il rencontre une belle Anna Macri et c'est le coup de foudre. On se marie, mais contre la volonté des parents.
Contre la volonté des parents, qui étaient une famille très conventionnelle, de magistrats haut placés, et Willy et le père de Willy, Eugenio Rizzo, est parti un jour pour faire les papiers. Mais je ne suis pas 100% sûre de la version de ma belle-mère. Parce que c'est une époque où les femmes n'étaient pas extrêmement précises dans leur version. Donc, et c'était une très très jolie femme, très coquette, et Willy aimait énormément sa mère. Donc il n'a jamais voulu chercher à savoir exactement où se situaient les fautes ou les départs de l'un ou l'autre.
Oui, parce que donc ils ont fui à Paris, et c'est de Paris que
que Eugenio est parti, voilà, ils ont habité Paris.
Voilà, et que la légende dit que Eugenio est reparti
à Boston, où il est né.
Aux États-Unis pour préparer les papiers, pour faire venir sa femme et le bébé
et
l'enfant. Et puis, il a disparu un petit peu dans la nature.
D'après Anna Macri.
Voilà.
Après...
Ah, d'accord. Voilà, donc c'est un mystère, mais
c'est
quand même une belle histoire d'amour.
Une histoire d'amour.
Voilà, qui a précédé la naissance de Willy Rizzo. Donc, ils sont venus donc très vite à Paris, et donc il a vécu à Paris.
Il a grandi à Paris.
Il a grandi à Paris.
Il est avec un amour profond pour Paris, avec un besoin de Paris à chaque fois qu'il partait aux États-Unis travailler. Il a travaillé à Londres, il a travaillé aux États-Unis, à Rome, bien sûr. Et il y avait cette nostalgie. nostalgie à un certain moment de Paris, de tous les quartiers, des rues, de la musique, de traîner, un amour fou pour Paris. Mmh. Et une culture française.
Voilà, et donc il a fait ses études au lycée italien, Leonardo da Vinci, qui est Residio, voilà. Et c'est à cette époque-là qu'il voit un film américain dans lequel James Cagney tient le rôle d'un photographe. Et il se dit, voilà, c'est ça que je ferai quand je serai plus grand.
Il était très flatté parce que James Cagney avec sa carte de presse dans son chapeau. Et Willy a toujours gardé, je crois que je l'ai avec moi, sa carte de presse 1816 qu'il a eue à la Libération. Il était très très fier de sa carte de presse. Et pour lui, le journalisme, le besoin d'informer, le besoin de dire des choses était comme un policier qui peut pas s'empêcher de dénoncer quelque chose. Même si c'était des amis, même si c'était une chose privée. Bon, il y a une partie de notre vie privée, bien évidemment, qui n'a pas été dévoilée, mais tout ce qu'il pouvait informer, il l'a fait. Évidemment par les images.
Oui, y compris, il a fait beaucoup de photos de modèles, mais il a aussi participé
L'aventure Paris Match.
Voilà, à l'aventure Paris Match et un reportage, notamment en Indochine, qui est le Vietnam d'aujourd'hui, où là, forcément, ces photos où il montrait un petit peu une réalité qui était un petit peu gênante pour l'armée.
Qui n'ont pas été exposées. Voilà. Qui ont été exposées la première fois par François Cheval au musée Nicéphore-Niépce, contre la volonté pratiquement de Willy. Il a fallu beaucoup insister, parce que Willy avait l'envie de garder cette image sophistiquée, concentrée. Pour lui, le défi, c'était la mode et le travail et la création. Donc, faire ces photos qui étaient certainement très intéressantes, la preuve, elles ont été exposées aussi au musée des armées, n'était pas l'image qu'il voulait donner de lui-même. Il voulait, et puis, il y avait la chose de rentrer aux États-Unis facilement avec des caméras de photos. Et si on avait une position politique où on prenait un parti, c'était la frontière, enfin la douane était déjà plus compliquée.
Oui, c'était plus difficile. Oui. Voilà, on est parti un petit peu trop. On va revenir, donc, dès sa jeunesse, ce qui l'intéresse, c'est de fréquenter les studios donc, de cinéma à Paris, avant Cinecittà, c'est-à-dire Billancourt et Joinville. Et là, il peut rencontrer toutes les vedettes qui vont également lui ouvrir la porte vers les États-Unis. Et sa première collaboration, donc, c'est avec Ciné Mondial pour France Roche.
Exactement, France Roche, sa première rédactrice.
Voilà.
Elle avait 18 ans.
Voilà, oui, ils avaient, je crois, à peu près le même âge. France Roche, qu'on a connu ensuite dans ses émissions de télévision.
Avec François Chalet.
Voilà, c'est ça. Et puis ensuite, donc, Point de vue, où là, il réalise...
D'abord dans Image du Monde, était le premier magazine.
Oui.
Ensuite, il y a eu Point de vue, qui est devenu un magazine peut-être plus important, plus politique, qui ont fusionné par la suite. Ensuite, Willy est rentré avec Max Cor pour France Dimanche, qui était un rédacteur extrêmement fort et puissant dans le titre. C'était une chose très nouvelle. Et puis, ensuite, il est parti aux États-Unis. Et aux États-Unis, Hervé Mille est venu le trouver, qui était un grand ami de Jean Prouveau, pour démarrer l'aventure Paris Match mi-48.
Voilà. Mais donc, à chaque fois, il était à la création des journaux. France Dimanche venait également d'être créé. C'est là qu'il a commencé à couvrir le Festival de Cannes et rencontrer toutes les stars. Voilà, le premier Festival de Cannes en 46, en effet.
Il a créé le Club des milliardaires.
Voilà, aussi.
Vous êtes au courant.
Voilà, avec donc Porfirio Rubirosa et autres. Et qui lui a permis de rencontrer toute la jet set de l'époque. Et dans cette période, il photographie tout le monde. On aurait plus vite fait de dire qu'il n'a pas photographié, parce que Brigitte Bardot, Marilyn, mais y compris, il a fait les dernières photos de Marilyn, Callas, Gregory Peck, Sophia, Gina, Monica, voilà. Et Sagan, en dehors des stars. On va reparler de tout ça. On va peut-être faire une petite interruption musicale avec, on va écouter la musique de Nino Rota, Fellini, évidemment, Willy a bien connu. Et c'est La Strada.
Aligre FM 93.1. Thank you.
On va laisser la Strada et Nino Rota. On va partir à New York en 47. En 47, il a à peine 19 ans. Et donc, il part à New York. Et là, il rencontre toutes les stars américaines.
Oui. Ce qu'on peut dire après l'intermède de la Strada, c'est la sensibilité de Willie. Il avait travaillé aussi justement aux États-Unis pour Barnum & Barnum, pour le cirque. Et c'est cette sensibilité que l'on retrouve dans son travail, dans les expressions des photographies, des regards, et ce cirque et cette rengaine. Et ça, c'est vraiment un trait à lui, pour retrouver les personnalités qu'il photographie.
Oui, on parlera plus précisément de ces photos. En effet, les regards sont toujours... On sent la confiance de la personne qui est photographiée. Souvent, il regarde l'objectif, sauf Anouk Aimée, par exemple, ne fixe pas l'objectif, mais on sent...
Elle dégage autre chose.
Oui, c'est ça. Oui, une sorte de mystère. Mais souvent, et en fait, le regard, enfin, le focus est sur le regard. On peut avoir en premier plan flou Monica avec une mèche de cheveux, mais le regard est toujours... On sent que
il y a vraiment... Il a envie de nous parler, de nous communiquer avec son sujet.
On ressent la personnalité de la personne à travers le regard, c'est sûr. Après les États-Unis, il revient en France où il commence avec
Paris Match.
Et sa première couverture en couleur, c'est Winston Churchill.
Oui.
Mais il fera aussi des choses beaucoup plus étonnantes, puisque même le Vatican va ouvrir les portes à un photographe, ce qui n'était pas encore fait.
Ça a été assez difficile. Il est rentré au Vatican dans une invitation semi-privée. Et le chef du protocole du Vatican est venu le trouver. Il lui a dit, est-ce que vous êtes content de votre travail? Et Willie a dit au très Saint-Père, qui était présent, pas vraiment. Et ce qui est en 1950 une chose catastrophique. Donc il a été pratiquement chassé.
Rappelons que c'est Pie XII. Hein,
c'est Pie XII, absolument. Le secrétaire de Pie XII, alors qu'il partait avec son assistant, est venu le trouver. Et Pie XII lui a donné rendez-vous dans les jardins privés du Vatican. Et c'est là où il a pu faire ses photos iconiques avec Saint-Pierre, la coupole de Saint-Pierre derrière et différents passages du Saint-Père.
Le pape qui a l'air de se promener, de méditer dans les jardins du Vatican. Oui, tout à fait. Ensuite, il fera une autre photo, une couverture en 52, je crois, où là, il y aura le portrait
un petit peu officiel, très classique.
Alors, il a aussi rencontré Callas, et cet épisode de séance de photos chez Callas, c'est une expérience extraordinaire.
Oui, c'est une expérience parce que pendant la session de photos dans sa loge, Callas ne trouve plus son émeraude. Et donc, Menanghini arrive, son ex-mari, et ferme la loge. Il dit, personne ne sort, on appelle la police. Et Willie était évidemment très vexé avec son assistant. Et puis, au bout d'un certain moment, elle retrouve l'émeraude dans les draps. Et des excuses plates. Mais Willie restait quand même très, très vexé pendant un bon moment. Et il a raconté à Hergé dans les couloirs de Paris Match. Et Hergé en a fait le Walter Risotto de Bijoux de la Castafiore.
Voilà. Et donc, Callas est devenu la Castafiore.
La Castafiore.
qui n'est pas très gentille, qui est sympathique pour Walter Risotto. Mais moins pour Callas. Mais enfin, en tout cas, oui, l'histoire s'est bien terminé, et puis...
Tout ça est terminé en amitié, autour d'un plat de spaghetti, de macaroni, exactement, et il y a eu une très belle suite.
Voilà. Donc, c'est aussi à cette époque donc, où il fait ce reportage pour Match dans la guerre d'Indochine, où là, il a voulu photographier des choses un peu trop réelles, trop proches du réel, et l'armée n'a pas apprécié, donc certaines photos...
C'était une opération de police.
Oui.
Donc, lui a photographié des bombes, des avions qui atterrissaient, donc c'est extrêmement mal vu par le ministre de l'Information et les photos n'ont pas pu paraître. À l'époque, ça s'appelait le ministre de l'Information.
Oui. Donc, c'est l'époque aussi où il rencontre... Enfin, il fait aussi des photos avec Saint-Laurent, il fait des photos avec Sagan. Il est devenu l'ami de Sagan.
Elle est restée notre amie jusqu'à la fin.
Ensuite, Marie-Claire, Roger Théron l'appelle.
Jean Prouveau, en 1954, pour toutes sortes de raisons, parce qu'il aimait la mode et il y avait cette sophistication en lui, le place comme directeur artistique de Marie-Claire. Mais c'était encore l'époque Prouvot.
C'est là qu'il rencontre Coco Chanel. Enfin non, il avait rencontré Coco Chanel avant. Dans les années 40, puisque il a été, y compris marié une première fois avec Paul, un mannequin qui était à la fois chez Jacques Fath et chez de Chanel.
Et qu'il a fait rentrer chez Chanel.
Chez Chanel. Donc on le disait tout à l'heure, il a aussi fréquenté Marilyn. Il a pris les dernières photos de Marilyn avant sa mort. Donc dans ce livre qui s'appelle Willy Rizzo, on retrouve toutes ces anecdotes, ces rencontres, y compris il nous dit qu'il ne pense pas que ce soit un suicide, que Marilyn était vraiment malade. Il l'a vraiment côtoyée, il la voyait.
On ne se suicide pas pour deux hommes.
Oui, c'était les deux frères. Se suicide pour un peut-être, enfin sans doute, ça existe, oui, ça existe, bien sûr. Il se dit aussi qu'elle avait c'est un petit peu dévoyé en se mêlant un petit peu à la politique, du moins en fréquentant des
hommes politiques. Elle était très vexée parce que les services secrets lui avaient demandé de ne pas appeler la Maison Blanche,
il l'avait mise à l'écart. Oui, c'était un personnage un petit peu indésirable. Mais d'autres stars, Marlène Dietrich, Bardot, donc Marlène Dietrich également, qui l'a fréquenté, qui lui faisait des pattes, c'est vraiment une vie complètement incroyable. Et en 68, il part à Rome et là, donc jusqu'à présent, il a fait essentiellement des photos. Et en 68, il part à Rome et c'est là qu'il va devenir designer, un petit peu presque malgré lui. Oui. Mais à quelle occasion ?
Il rencontre Elsa Martinelli, de qui il tombe amoureux. Il décide de partir à Rome. Tout le cinéma, Elsa, et les retours à l'Italie l'intéressaient beaucoup. Et ils prennent un appartement en place d'Espagne. Et ils cherchaient des meubles. Et les meubles suédois, qui étaient un peu fragiles, un peu légers, ne lui convenaient pas. Donc, il a créé ses propres meubles, qui ont eu beaucoup de succès parmi tous ses amis assez célèbre, justement, du cinéma. Et le succès arrivant, il a créé son usine. Il a créé une usine importante sur la Tiburtina.
Oui, près de Tivoli.
Près de Tivoli, exactement. Et il y a eu un grand, grand succès avec des revendeurs aux États-Unis, en Espagne, enfin dans tous les pays européens et américains. Et sur le continent américain. Et ces meubles, et j'ai gardé, enfin l'usine a été vendue au début des années 80, et j'ai gardé des ateliers à Rome, au sud de Rome.
Voilà, et donc ces meubles sont toujours fabriqués parce que...
Oui, par les mêmes. Voilà. Troisième génération.
Ah oui, donc c'est meubles de qualité. Et parce qu'à une époque, il y a eu jusqu'à 150 salariés, peut-être aujourd'hui, peut-être un peu
aujourd'hui,
moins.
Aujourd'hui, entre 15 et 20, ça dépend, il y a des intervenants en présent.
Mais donc on verra donc le détail de ces meubles. Revenu à Paris, il ouvre une première galerie rue du Faubourg Saint-Honoré.
Oui. En propre, on avait beaucoup de franchises. Il y a eu beaucoup, beaucoup de franchises. Il y avait une vingtaine de franchises dans le monde. Mais Faubourg Saint-Honoré était en propre.
Mais donc là, il était plutôt occupé par le design, je pense.
Oui, il disait toujours il faut deux métiers à présent. Après la guerre, il a pensé qu'il fallait deux métiers pour continuer. Non, il a toujours fait des photos. Il était directeur artistique quand il était à Rome de Playboy pour Hefner.
Oui,
il a toujours couvert les collections pour Vogue Italien. Pour Vogue Italie, quand il était à Rome.
Voilà, et donc ensuite, il a également commencé une sorte de carrière, pas de carrière au cinéma, mais on l'a appelé parce qu'on trouvait, c'est Danny DeVito qui trouvait qu'il avait une tête de mafioso italien, évidemment le napolitain, c'est le cliché habituel, et donc il l'a engagé dans son film qui s'appelle Offa.
Exactement.
Et donc là, il rencontre notamment
Jack Nicholson.
Jack Nicholson.
Alors, Jack était son ami depuis très longtemps. Et Jack et Willie ont toujours eu une grande complicité, une grande intimité. Parce que Willie appréciait le côté mime que lui donnait à ses modèles dans la photographie. Il expliquait aux mannequins, en bougeant son corps et son visage. Et Jack était le plus grand mime que l'on puisse imaginer. Donc, il y a dès le départ une grande complicité, un grand sens de l'humour entre eux. Assez tacite, parce que ni l'un ni l'autre ne parlait très bien la langue de l'autre, mais ça a fonctionné pendant 35 ans, je dirais, au plus, et on a passé tous les étés ensemble.
Voilà, et c'est lui, je crois, Jack Nicholson, qui a favorisé votre mariage aux États-Unis.
On s'est mariés chez lui à Aspen,
voilà, carrément.
Il y a très longtemps.
On va faire une nouvelle pause musicale avec Amarcord, puisqu'on est, on est dans les souvenirs, mais on est aussi dans le présent. On va écouter le Amarcord de Nino Rota.
Allegre FM 93.1.
Venir maintenant à l'exposition proprement dite, qui est donc cette exposition qui est 12 rue de Verneuil dans le 7e, jusqu'au 1er avril, donc vous avez le février et le mois de mars pour y assister. Donc dans cette exposition, on est accueilli dès la vitrine par Federico avec Anita derrière. D'un autre côté, on a Sofia et Carlo Ponti. Et quand on entre, on a donc à la fois les photos et le mobilier créé par Willy Rizzo. Commençons par les photos. Un petit peu, on a des portraits, beaucoup de femmes. On a fait une émission dédiée aux femmes et on va continuer parce que là, donc, on a Sofia plusieurs fois, on a Gina, on a
Vianna Lisi, Claudia Cardinale,
Elsa Martinelli, bien sûr.
Oui.
Mais alors, beaucoup de photos en couleur, quelques photos en noir et blanc. On retrouve aussi Pasolini, Marcello en blond, ce qui est assez rare dans le film de Elio Petri, La dixième victime. Et puis, Leonora Rossi-Drago,
Sandra Milo,
on a
Giulietta Massina,
les deux Monica, la Vitti et la Bellucci dans les photos plus récentes. Et c'est vrai que vous disiez, on reconnaît ces photos. Surtout, il s'est intéressé au regard. Je pense que c'est par le regard que ces portraits portent.
Il a essayé de créer une communication avec son sujet, de le photographier comme il le voyait lui-même à l'intérieur, et puis de raconter parfois une histoire aussi, dans le regard, dans l'attitude, dans la mise en scène, de raconter une histoire.
Oui.
L'exposition, il y a trois parties. Il y a certaines photos de cinéma vraiment en noir et blanc, certaines photos anecdotiques. Il y a les portraits, bien sûr, et des photos iconiques comme celle de Fellini avec Ekberg, ou des mises en scène comme celle de Marcello et Elsa, remis en scène par lui.
Voilà. On peut voir aussi quelques films projetés. Donc, l'exposition se déroule sur deux étages, et donc on a un étage où on a quelques extraits des films. Et puis, donc, les mobiliers. Alors, les mobiliers ont un aspect un petit peu années 70, mais ils sont intemporels. Ils iraient aujourd'hui, même dans un château.
Les jeunes aiment beaucoup.
Oui.
On a une clientèle très jeune.
Tant mieux.
Aussi.
À la fois, ce sont des formes très pures, ce sont des cercles, des ellipses ou des cubes, mais les matériaux sont toujours des matériaux plutôt...
Qui restent. Ce sont des meubles riches,
aussi bien du fauteuil, fauteuil en velours ou en peau de pécari. Donc, parlez-nous un petit peu de ces fauteuils, de ces mobiliers qui ont aussi un aspect pratique. Les tables basses,
Le confort et la fonctionnalité, bien évidemment. Il ne s'agit pas de faire des meubles peu compliqués. Ce sont des meubles simples, les formes sont simples. Et il y a des inventions, ça veut dire il y a la vasque pour les tables, il y a les insertions de métal les unes dans les autres, il y a les canapés sans accoudoir à l'époque en 68, modulables, il y a les tables tournantes, il faut pas juste que ce soit un meuble, il faut qu'il y ait une convivialité autour du meuble et un certain luxe.
Oui, c'est un luxe, des matériaux, des meubles laqués, très belles laques.
De la pierre, très jolies pierres.
Voilà, du laiton, très belles lampes, j'aime beaucoup, moi, particulièrement des lampes triangulaires.
Les love lamps.
Notamment, les love lamps, oui, les lampes propres.
Alors, il mettait des foulards au départ sur les lampes, oui. qui à la fin finissaient par noircir, oui. Donc il a créé les love lamps.
Oui, voilà. Donc, malheureusement, le temps nous presse et on déborde déjà, donc... je conseille à nos auditeurs et auditrices, ils ne sont pas encore allés aller voir cette exposition, donc 12 rue de Verneuil, Paris 7e, jusqu'au 1er avril. On est très bien accueillis, je dois dire. À la fois, on fait un voyage à Cinecittà, on peut commander éventuellement.
Ce sont des tirages argentiques signés et numérotés,
voilà,
faits par lui.
Des grands formats qui sont numérotés, qu'on peut acquérir. On peut acquérir des meubles, commander des meubles, puisqu'ils sont toujours fabriqués en Italie. Et encore une fois, on est vraiment très bien reçus par
L'équipe
qui tient la galerie.